France Culture.
On est sur des espèces de grands axes routiers en pleine forêt. Il y a des grandes lignes droites et avec de la forêt à perte de vue. Ah, ça y est, la 4G a disparu là. Une barre de réseau. Ça y est, j'ai plus de réseau. Zéro. La personne qu'on va rencontrer là ce matin, on a intérêt à savoir où on la rencontre, parce qu'on peut pas la contacter au dernier moment pour savoir où elle est.
Au-delà de l'atome. Épisode 4. L'infini voyage d'une particule.
À droite.
Tony Ayer.
On se rapproche.
Gilles Mardi-Rossian.
Surtout c'est désert, quoi. On n'a pas croisé une seule voiture. On est entouré par la forêt. Alors, il y a un panneau juste devant nous, là, à droite, je m'arrête. Attention, vous pénétrez dans une zone de silence radio. L'usage de radiotéléphone, de CB, de tout autre appareil émetteur est strictement interdit. Avec un téléphone barré. Et au loin, on voit déjà quelques antennes paraboliques. Avec un grand dégagement en face de nous, là, une sorte de clairière.
Ici, on n'aime pas le bruit. Par bruit, il faut entendre ce qui perturbe le signal. Et comme un bruit peut devenir un signal qui s'ignorait jusqu'alors, la station de radioastronomie de Nancy permet la sanctuarisation d'une écoute, celle de l'espace. Avec ses 200 hectares, cette zone blanche, épargnée des perturbations électromagnétiques humaines, reçoit les signaux célestes. Construit dans l'après-guerre, dans la course à l'espace, la station permet l'étude des galaxies, des enveloppes d'étoiles, des comètes et le chronométrage du scintillement des pulsars, ces étoiles qui tournent comme des phares. Nos smartphones éteints, pour ne pas brouiller les expériences radio effectuées sur le site, on retrouve Olivier Martineau, Marion Guelfand et Kumiko Kotera. C'est avec elle que je marche sur le chemin de l'héliographe, une grande découpe dans la forêt solognaise en forme de T, de 1,7 sur 1,2 km. Tous les 100 mètres, une parabole de 5 mètres, dressée comme un chien vers le ciel, semble en attente d'un message, à l'écoute.
Donc là, on est au milieu de la forêt, il fait beau. On a plein de paraboles qui nous entourent, des antennes radio historiques qui sont encore en fonctionnement, qui font différentes manips pour regarder des galaxies, le soleil, des choses comme ça. Et donc, on est venu depuis Paris, 2 heures de route, avec Olivier Martineau, le co-spokesperson de Grande, et notre doctorante Marion Guelfand, qui va nous aider, enfin qui va faire en fait tout, toute la manip, tout le test.
Je m'appelle Kumiko Kotera, je suis directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris et co-porte-parole de l'expérience Grande.
Là par exemple, on se trouve sur un long chemin de gravier d'un côté qui doit faire, je sais pas, 300 mètres, 400 mètres. De l'autre côté, c'est un peu la même chose, c'est encore plus long. C'est hyper dégagé, on est dans une espèce de grande clairière. Donc on voit très très bien le ciel au-dessus de nous, il fait jour, il doit être 15h. Qu'est-ce qui nous pleut dessus là ?
Alors là, on reçoit une quantité folle de particules qui nous bombardent et qui nous proviennent en particulier du soleil. Donc c'est des rayons cosmiques qui, comme j'ai dit, donc, sont des noyaux atomiques, des protons, des noyaux d'hydrogène donc, ou des noyaux de carbone, des noyaux d'oxygène, des noyaux de fer. Donc tout ça est accéléré, enfin, c'est des petits noyaux qui sont accélérés à l'intérieur du Soleil, et puis d'autres astres qui sont plus lointains. Et donc toutes ces particules bombardent la Terre. Voilà. On en reçoit 1 kg par an, et ça paraît très peu. Mais quand on sait que chaque particule pèse 10 moins 27 kg, ça fait quand même donc 10 puissance 27. Donc 1 avec 27 zéros particules qui nous pleuvent dessus par an. Ça fait pas mal sur
ça
la Terre.
Ça fait beaucoup de particules.
Oui. Voilà.
Et où est-ce qu'on va là ?
On va à notre container qui abrite les machines qui vont nous permettre de faire de l'acquisition de données et qui abrite aussi tous les bouts d'antennes qu'on va bricoler et qu'on va mettre ensemble pour tester nos boîtiers.
Ici, il n'y a absolument pas de réseau. C'est-à-dire, il n'y a même pas une seule barre de réseau.
Non, on est dans une zone blanche.
Ouais. Bon, c'est toi qui dois ouvrir, Kumiko.
C'est moi qui dois ouvrir. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai clé.
Ça fait un an et demi qu'on n'a pas mis les pieds ici, parce qu'on a été occupé par le déploiement en Chine, donc ce banc de test là qui sert essentiellement pour valider l'électronique, des choses comme ça, finalement on n'en a pas eu trop l'utilité pendant tout ce temps-là, donc on va voir exactement dans quel état on va retrouver les choses. Donc il y a des toiles d'araignée déjà. Et puis voilà.
Je m'appelle Olivier Martineau, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et je fais ma recherche au LPNHE, le laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, sur le campus de Jussieu. J'ai 48 ans et je fais de la radiodétection des rayons cosmiques avec le projet GRANT.
Allez.
Bienvenue, grande atmosphère.
Vas-y, c'est physique. Hein. Allez, ouais. Ouais, faut y aller, ouais.
Non, ça marche.
C'est bon, non ?
C'est rouillé.
Et tu vois, ça fait tellement longtemps que...
Attends, il y a quelque chose qui n'est pas
bien. On ouvre le conteneur. Il y a juste l'enceinte cage de Faraday, celle-là. On est dans un environnement protégé où on veut absolument pas de radiation. Et à l'intérieur de ce container, il y a beaucoup d'électronique, il y a des ordinateurs, des choses comme ça, donc des choses qui rayonnent beaucoup de radiation électromagnétique. Donc c'est essentiel de se découpler de ces radiations-là et de s'assurer qu'à l'extérieur, il n'y a pas d'émission. Donc la meilleure manière de faire ça, c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Donc là, c'est pour ça, par exemple, on voit là sur la porte, il y a en fait un conducteur qui est collé sur le bord de la porte, qui assure un contact électrique parfait quand on ferme la porte. Et comme ça, ça permet de garantir vraiment toujours ce concept d'isolation totale. On a juste un tout petit montage ici, avec une alimentation, 4 câbles d'alimentation qui vont sur le terrain. Et puis ici, on a 3 récepteurs de fibre optique. Et donc on a quelques centaines de mètres de fibres optiques qui courent sous le sol et qui vont alimenter les 4 positions sur lesquelles on est capable de déployer nos antennes. Et puis on a l'ordinateur d'acquisition qui est au fond du conteneur. Il n'a pas été allumé depuis un an et demi. Alors, bon, on va regarder si on arrive au moins à l'allumer. Ok, ça boot.
qu'est-ce que c'est que l'astronomie, Kumiko?
Alors l'astronomie, c'est vraiment, je pense, cette envie qu'a toujours eu l'homme, ça fait très bateau, hein, mais de comprendre ce qu'il y avait dans le ciel. Et donc de regarder le soleil, la lune, et puis bah, toutes les étoiles qui s'allument lorsque la nuit se fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a fait depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, il se passe un bouleversement en astronomie. C'est que cette compréhension du ciel, qui s'est toujours faite en regardant la lumière jusqu'à présent, est en train de se faire avec d'autres messagers que la lumière. Et donc, on entre dans l'ère de l'astronomie multi-messager. Et donc, on essaie de comprendre le ciel en regardant avec les yeux. Et on va aussi, d'une certaine façon, on entend l'univers avec ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, qui sont des perturbations du tissu de l'espace-temps. Et donc, on a
vu dans l'épisode 3.
Voilà. Mais aussi avec des particules qui nous tombent dessus, qui nous pleuvent dessus, qui sont des particules ordinaires, qui nous constituent en fait, des noyaux atomiques, qu'on appelle des rayons cosmiques. Et donc on voit l'univers avec nos yeux, avec la lumière. On entend l'univers avec ses ondes gravitationnelles, vu dans l'épisode 3. On va toucher l'univers avec des particules qui nous pleuvent dessus. Et enfin, on va aussi pouvoir, entre guillemets, goûter l'univers en détectant d'autres particules qu'on appelle des neutrinos, qui sont des particules un peu spéciales, qui sont dotées de saveurs. Et en ce sens-là, pour moi, on entre dans une phase où on a une expérience multisensorielle de l'univers. Donc les neutrinos, c'est des particules extraordinaires dans la zoologie de la matière ordinaire. Donc avec un neutrino, on peut faire directement de l'astronomie, puisque on va relier directement une source avec un messager.
Une direction, en fait.
Une direction, voilà. Regarder le ciel avec un messager. Étant donné qu'on reçoit très très peu de particules, donc moins de 0,01 particule par kilomètre carré par siècle pour les neutrinos de ultra haute énergie, il va falloir construire des détecteurs géants. Et la radio se prête vraiment bien à ce déploiement massif parce que c'est des détecteurs robustes, simples, c'est quand même du fil de fer avec une électronique assez simple, et qu'on peut déployer, qu'on peut multiplier à grande échelle et installer de façon assez simple sur de très grandes surfaces. Donc c'est pour ça que la radio est vraiment aujourd'hui une technique très prometteuse pour faire la détection de ces particules de très faible flux. Et grande, c'est a priori parti pour être un détecteur qui va couvrir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés avec plusieurs dizaines de milliers d'antennes, donc une par kilomètre carré typiquement, sur deux hémisphères, hémisphère nord, probablement dans le désert de Gobi, et hémisphère sud, probablement en Argentine. Et ça, c'est très compliqué parce que la radio, c'est une technique assez traître, parce qu'on baigne dans du bruit radio partout. Et même si on va dans le désert de Gobi le plus reculé, la Pampa en Argentine la plus reculée, on est toujours dominé par du bruit radio humain. Comme là, on a des avions aussi qui passent. Mmh. On est tellement noyé dans ce bruit que c'est très difficile pour un système, pour des antennes, de réussir à faire la distinction entre ce bruit humain et le bruit d'une particule astrophysique qui nous est tombée dessus. Et malgré tout, donc avec Grand, on veut montrer que c'est possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des premiers prototypes pour montrer qu'on est capable de faire ça. Alors on a trois prototypes. Enfin en fait, on a un grand prototype dans le désert de Gobi qui va faire 200 km². Là, on a 50 antennes en opération qui sont en train de collecter des données là en ce moment même. Et ça se passe très bien. Donc là, on ne va pas forcément détecter des particules, mais c'est un endroit où on va tester nos algorithmes, tester différentes pièces qu'on veut mettre en place dans le désert de Gobi. Et
faut pas être en rade dans le désert de Gobi, voilà, si ça marche pas.
C'est ça, c'est plutôt que de prendre l'avion et de s'avaler des kilomètres sur des pistes, on teste d'abord à 2 heures de Paris, à Nancy, et puis ensuite on va implémenter ça sur site. C'est ça l'idée de Nancy. Antenne, là.
Ok, super. Ça va passer ou ça va pas passer? Sinon, c'est pas grave, on peut la laisser là-bas.
Ouais, on la laisse là.
Juste les câbles de la trace long. Bon. Tu veux la amener là
Attends,
mais
j'apporte.
Dans le domaine qui nous concerne, donc la radiodétection, l'essentiel du travail, c'est de décider à quel moment on va enregistrer les données, parce qu'on a donc un environnement qui varie au cours du temps, et il y a des impulsions, c'est-à-dire des petites variations du niveau de l'environnement électromagnétique, et ces petites variations, ces phénomènes transitoires, il y en a certaines qui sont dues à un environnement qui est bruyant, et d'autres qui sont dues aux rayons cosmiques, ce qu'on essaie de détecter. Et tout le jeu, tout le travail sur lequel, en particulier à Paris, on travaille depuis plus de 10 ans, c'est essayer de trouver les critères qui nous permettent de dire oui, cette impulsion-là, elle pourrait être un rayon cosmique, elle pourrait être une particule d'intérêt, ou alors non, c'est sûr, c'est un signal de bruit fond, ça n'a aucun intérêt. On a développé une technique dans les laboratoires là, d'identification des signaux. On ne l'a encore jamais testé sur le terrain, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tester avec le bruit environnement qu'on va enregistrer à Nancy.
Pour définir ce qui doit être considéré comme bruit, et ce qui doit être considéré c'est comme ça. Signal.
Alors, cette étape de validation dans l'environnement, elle est essentielle avant de penser à vraiment le déployer réellement sur l'expérience en Chine. Donc, au boulot.
Une particule qui est un rayon cosmique qui est produit par une explosion dans l'univers, au lieu de se propager en ligne droite, cette particule va avoir une trajectoire défléchie. Elle va être... c'est vraiment...
On lance une pièce de 10 centimes face à un aimant, elle va partir sur la droite si voilà. Elle est en opposition avec l'aimant.
Donc, ça veut dire que lorsqu'on récupère un rayon cosmique sur Terre et qu'on regarde sa direction d'arrivée, qu'on regarde dans le ciel, en fait, la source n'est pas du tout dans cette direction-là. Parce que la particule a traversé son champ d'aimant et en fait la direction, la source peut être complètement ailleurs. La Terre est magnétisée, c'est pour ça que la boussole tourne vers le nord. Mais en fait notre galaxie est magnétisée, l'univers a ce qu'on appelle un champ magnétique. Et voilà, donc ça veut dire que c'est très compliqué lorsqu'on récupère un rayon cosmique sur Terre de connaître l'origine de cette particule, qui l'a accélérée, qui a produit une particule comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes les plus énergétiques et les rayons cosmiques les plus énergétiques. Parce que, en fait, donc, tout parmi ces 10 puissance 27 particules, il y en a une toute petite fraction qui arrive sur Terre avec des énergies de malade mental, donc ce qu'on appelle des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Et donc ça, c'est une particule par kilomètre carré par siècle.
Une particule par kilomètre carré par siècle.
Voilà. Donc il faut se lever tôt pour en détecter une, ou en tout cas déployer des détecteurs sur de très très grandes surfaces.
Augmenter les chances de pouvoir
en détecter une. Voilà. Donc ces particules, on les détecte, on sait qu'elles existent. C'est des particules de tellement haute énergie que si on voulait les accélérer sur Terre avec les moyens du bord, c'est-à-dire ce qu'on a, le LHC.
Dans l'épisode 2, le LHC.
Voilà.
Ouais.
Eh bien, il nous faudrait un accélérateur de la taille de la galaxie.
Donc non pas 27 km comme le LHC,
mais
la taille de la galaxie. Voilà,
c'est ça. Donc c'est ça la dimension.
Et parce que le CERN, c'est une accélération à 10 puissance 7.
Voilà, là on
et
est
à 10 puissance 20.
10 puissance 20 électron-volts. Ouais, ouais. Donc on est quand
on
même...
On rajoute 13,0 après le 1.
Okay. Exactement. Donc c'est ça, et ça c'est très mystérieux parce que on détecte ce genre de particules de malades et on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas qui, quoi, dans l'univers
produit
ces particules de ultra haute énergie. Et on n'arrive pas à faire le lien à cause de ces déflexions dans les champs magnétiques. D'où l'intérêt des neutrinos de ultra haute énergie. Donc le truc génial du neutrino, c'est que, comme son nom l'indique, il est neutre. Donc, il n'est pas du tout défléchi par les champs magnétiques.
C'est-à-dire qu'il approche de l'aimant et ça ne lui fait rien du tout.
Ça ne lui fait rien du tout. Il va en ligne droite, il trace. Donc, si on détecte un neutrino de ultra haute énergie sur Terre et qu'on regarde dans la direction d'arrivée de ce neutrino, on devrait arriver directement pointé sur la source. Et ça, c'est de l'astronomie. Pour répondre à la première question, en fait, avec un neutrino, on peut faire directement de l'astronomie. On va relier directement une source avec un message.
Une direction, en fait.
Une direction, voilà. Regardez le ciel avec un message. Chaque seconde là, de notre existence, notre corps est traversé par 100 000 milliards, chaque seconde, 100 000 milliards de neutrinos qui proviennent en fait du Soleil. Les neutrinos, c'est des particules qui sont émises, qui sont produites à chaque fois qu'il y a quelque chose, une réaction nucléaire qui se produit. Donc, par exemple,
le Soleil, c'est une sorte de...
C'est un gros réacteur nucléaire. Voilà. Donc, il nous traverse et il faudrait qu'on vive 100 ans pour qu'un neutrino daigne interagir avec notre corps. Et c'est en ce sens-là que c'est une particule extraordinaire. C'est une particule qui est vraiment très difficile à capturer. C'est une particule qui traverse quasiment tout.
Alors, le point positif, c'est qu'elle n'interagit pas dans l'univers et dans son voyage avec d'autres matières. Donc ça veut dire qu'elle garde quelque part, je simplifie, mais elle garde une trajectoire fixe.
C'est ça.
Le point un peu plus compliqué, c'est que comme elle interagit avec très peu de matière, pour
la
détecter, c'est hyper compliqué de la détecter.
Voilà. Donc là, on va passer entre des arbres, des fougères, des sapins.
Voilà, là, il y a du...
ouais. On a deux tuyaux verts en plastique. Et voilà notre magnifique évacuation de chiottes qui va nous permettre de fixer notre tête d'antenne. Donc c'est un tuyau qui fait à peu près 1m20 à peu près de hauteur qui nous permet de surélever donc la tête d'antenne. Et puis normalement tout est connecté, ça a l'air beau, non ?
Ouais.
Je vois...
On ne peut pas l'ouvrir.
Ça boum.
Ça va.
Donc là, on passe les câbles qui connectent la tête de l'antenne. On a quelques mètres de câbles qu'on est en train de passer à l'intérieur du tuyau en PVC qui est de l'eau. Marion est en train de faire ça. Donc là, ça ressort par le bas. Okay. On les a enfilés par le haut, ça ressort par le bas. Et on est en train de tirer le tout. De placer l'antenne sur le haut du mât en PVC.
Ok.
Voilà, magnifique.
On est posé. Et là, je branche la fibre. Alors, je vais faire un truc extrêmement risqué.
Tu vas cramer une board.
Non, je vais brancher la board directement.
Donc Olivier, si j'ai bien compris, Kumiko et vous rencontrez à peu près il y a 10 ans.
Oui.
À ce moment-là, vous êtes déjà en train de poser, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, des antennes dans le désert.
Ouais.
Alors, comment, parlez-moi de la manière dont se passe votre rencontre. Et tous les deux, comment vous vous en souvenez? Comment ça se passe?
Qui c'est qui commence?
Donc, novembre 2013, ça faisait un an ou deux que j'étais revenue à Paris après quelques années aux États-Unis en postdoc. Et à l'époque, j'étais pure théoricienne, donc c'est-à-dire que je faisais des modèles de sources, de propagation de particules cosmiques, etc. Et j'essayais de comprendre, avec des équations et des simulations, comment l'univers violent fonctionnait. Je faisais des prédictions sur le nombre de neutrinos de ultra-haute énergie qui allaient pleuvoir sur Terre provenant de sources très violentes. Et ça me mettait un peu au désespoir parce que il n'y avait rien sur le marché, enfin dans la communauté, qui allait détecter ces flux très très faibles que je prédisais. Donc j'avais un petit peu l'impression de brasser du vent. Il n'y avait pas encore eu à l'époque la détection des ondes gravitationnelles. On venait tout juste de détecter des neutrinos de très haute énergie, donc 1000 fois, 10 000 fois moins énergétiques que ceux que moi je prédisais avec un détecteur qui s'appelle Ice Cube dans le pôle sud. Et c'était bien, mais ça faisait pas d'astronomie, parce qu'on voyait des neutrinos, mais on voyait pas de source. Enfin, en fait, j'avais un peu l'impression que le domaine stagnait, et j'avais un peu envie de faire quelque chose de, je sais pas, de plus ambitieux, de plus inséré dans la communauté, avec des gens bien, intelligents, tout ça.
Beaucoup de monde,
ça. C'est ça. Et de mener, ouais, de mener un projet, quoi. Et même la semaine d'avant de rencontrer Olivier, je venais de dire à mes parents, qui étaient en visite chez moi, que je voyais pas trop d'avenir dans ma carrière là comme ça, et que si ça continuait comme ça, ben je songeais peut-être à même quitter la recherche pour aller faire un projet dans l'industrie. Et puis la semaine suivante, il y a Olivier qui vient prendre un café avec moi à l'Institut d'Astrophysique de Paris.
Et donc moi j'avais un parcours complètement différent parce que moi j'avais été recruté, je suis un peu plus âgé que Kumiko, j'ai 50 plus, donc j'avais été recruté un petit peu avant. Et je venais de passer 5 ans en Chine, j'allais dire tout seul, c'est pas exactement vrai, mais quand même assez isolé avec 2-3 collègues chinois et un collègue français, à construire un détecteur dans les montagnes du Tian Shan, dans l'ouest de la Chine, pour montrer qu'on pouvait observer des gerbes atmosphériques, donc des gerbes d'origine cosmique, en fait, uniquement avec des antennes radio. Et du coup, mon détachement à Pékin avait pris fin, j'étais revenu à Paris. Le directeur de mon labo me disait, bon, ben, en gros, c'est terminé un peu la promenade, maintenant il va falloir se remettre sérieusement au travail, tu vas travailler sur les gros projets porteurs du labo. Et puis moi, je me voyais pas du tout faire ça, quoi. Je dis, ben, quel est l'intérêt d'être le 31e contributeur à ce projet? Je crois en cette détection radio, et donc j'ai envie de continuer là-dedans. En novembre 2013, j'avais participé à un atelier organisé par Kumiko. Et du coup, quelques mois après, je me dis, ben, tiens, je vais retourner la voir et lui parler de mon projet et voir ce qu'elle va dire. Et Kumiko, en 10 minutes, je pense, elle me dit, mais attends, mais c'est trop bien, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et hop, elle dit, alors attends, on va contacter un tel, on va prendre un tel, on va faire un workshop, on va organiser ça, et puis on va vraiment démarrer et s'atteler à la tâche et faire que ça fonctionne. Et donc voilà, moi je me suis retrouvé embarqué là-dedans.
Ouais.
Non, mais je pense que j'avais besoin de cet apport d'énergie externe. Parce
on
que moi, je me
suis. Ouais.
Je me sentais quand même un peu isolé, hein, avec mon bâton de pèlerin et mes antennes dans le désert en Chine. Ça me plaisait, mais il y avait quand même une adversité forte. Hein. Il y avait peu de gens qui étaient extrêmement enthousiastes sur ce que je faisais, quoi.
Et c'était exactement la manip que j'attendais, quoi. C'était la manip, le projet, en fait, tout collé avec ce que j'attendais. En tout cas, ce qui devait arriver. Donc, voilà.
On a organisé le workshop 6 mois après.
Ouais, une vingtaine de personnes, même un peu plus. Ouais. Donc au début, on était deux et demi. Après, on était 20 avec le workshop. Et aujourd'hui, on est 130, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est un peu le... Quand tout colle, c'est que c'est bon, quoi.
Mais oui. Beaucoup de moustiques, ceci dit. Hein.
Il y a beaucoup de moustiques.
J'aimerais comprendre comment il est possible de se lever le matin, de se faire son café et de faire cet aller-retour entre l'incommensurable, quelque chose qui nous dépasse, mais même qui nous dépasse, qui dépasse l'humanité en fait, puisque cette particule d'ultra haute énergie, si elle arrive, si vous la captez un jour, ça voudrait dire que vous captez quelque chose qui est né, qui est extrêmement rare d'abord, et qui est né au-delà même d'une période qu'on peut imaginer. Enfin, on peut l'imaginer, mais elle vous dépasse. Comment est-ce qu'on vit ce dépassement-là au quotidien dans la recherche?
Curieusement, je pense que ces questions-là, on se les pose quand on vous parle. Justement, quand on prend assez de recul pour redimensionner ce qu'on est en train de chercher. Mais au quotidien, ce qui se passe, on mange des câbles, on boit des cafés, on est devant notre ordi, il y a plein de choses qui marchent pas, on fait des demandes de financement, on est dans un bureau, on écoute des gens pleurer, on écoute des gens qui sont contents, on travaille avec nos collègues, on relit des manuscrits de thèse de nos étudiants, nos étudiantes, et... Je pense que la recherche est très fortement ancrée dans la réalité et dans du quotidien brut. C'est chacun de ces petits moments qui fait qu'à un moment, on arrive à peut-être résoudre la question de qu'est-ce qui a produit une particule de ultra-haute énergie, ou la détection d'un neutrino de ultra-haute énergie et l'exploration de cet univers violent. Mais je dirais qu'au jour le jour... C'est comme si on n'avait pas à le concevoir pour faire notre métier, je dirais.
Quoi ? Concevoir quoi ?
À concevoir ces questions infinitésimales de très grandes... Enfin, ces questions qui nous dépassent. Elles nous... Ouais. Bah, ce plongeon dans le... dans l'infini, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, et toutes ces questions sur l'univers violent, je pense que c'est disjoint quasiment de notre quotidien, dans la façon dont on travaille. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que moi, je suis arrivée dans ce métier parce que j'ai été attirée par ce vertige, par cet infiniment grand, cet infiniment petit, ces galaxies qui se forment, cet univers qu'on ne comprend pas, etc. Je suis arrivée par cette voie-là. Oui, parce que je pense qu'il faut un moment rêver pour en être là et pour avoir trouvé la force de se battre contre des systèmes. C'est pas facile d'avoir un poste etc. Mais ce que j'ai découvert en faisant ce métier, c'est que le matin, quand je me lève, c'est pas parce que je pense à l'univers et au fait que je vais résoudre des questions liées à l'univers violent. En fait, je me lève parce que j'ai envie de travailler avec Olivier Martineau et Marion Galfand. Non, sincèrement, je me lève parce que c'est fun de se mettre autour d'une table et de résoudre un puzzle. Et le puzzle, ça peut être comment brancher tel câble, ça peut être comment résoudre telle équation, ça peut être il y a un terme qui bug dans mon code. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui est fun. Et c'est de prendre c'est tout ça ponctué de café renversé et de missions très chouettes. Dans le Gobi ou ailleurs, entre D'Enfer Rochereau et Jussieu, cet équilibre-là, moi, je trouve que c'est ça toute la joie qui me fait me lever le matin.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça revient? Et quand est-ce que ça peut revenir? La conscience du prétexte du neutrino et de cette recherche, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, hop, à quel moment, si à ce moment, ça vous retombe dessus?
Alors moi, très clairement, récemment, il y a eu un moment où ça m'est revenu. Et je pense que c'est inévitable. C'était quand on était dans le Gobi.
Ouais. J'allais dire la même chose.
C'est ça. C'est ce moment où on est à côté de nos antennes. On vient de maniper toute la journée, toute la soirée. On a regardé des données, on a vissé des trucs. Et ça a été dur et en même temps sympa. On est crevé et puis on va dehors et là on voit la Voie lactée qui se déploie dans le ciel avec toutes les petites structures qu'on voit parce que le ciel est limpide et on sait qu'on est au milieu de nulle part avec des collègues qu'on aime et là on se dit ah ouais, c'est cette connexion
entre le cosmos qui nous envoie quelque chose, qu'on est en train de regarder, les antennes qui vont peut-être les détecter un moment, nos petites mains qui vont les fabriquer et tous nos cerveaux là, en réseau de neurones. Là. Et ben ça, c'est là où il y a la dimension qui revient et c'est le vertige, il vaut le coup. Tous motivés par une question, une grande question qui nous dépasse tous, enfin, qui est à l'échelle de l'humanité. Et on se met tous autour d'une table parce que en buvant des bières et des cafés et en faisant résonner nos cerveaux entre nous pour résoudre ces questions-là. Et je pense que quand on fait quelque chose comme ça, forcément, il y a une dimension humaine qui rentre en compte. On n'est pas drivé par une volonté de faire de l'argent. Vendre des armes, enfin, bon, c'est débile ce que je dis. Mais...
Moi je trouve ça effectivement, c'est un des trucs qui est quand même vraiment intéressant dans la recherche fondamentale, c'est que le seul vrai driver des gens, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'univers. Bon, évidemment, il y a l'aspect égoïste, vaniteux peut-être, d'être celui qui trouve, mais globalement, quand même, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça marche, quoi. Et de manière très sincère, quand Ice Cube a vu des neutrinos, moi j'étais objectivement très content, quoi. Même si c'était pas moi qui l'avais observé, et je pense que c'est le cas pour tous les chercheurs. On est quand même des gens qui, il y a vraiment un côté recherche au trésor, essayer de comprendre ce qui se passe et assez désintéressé au final, quoi.
La science c'est humain, la science c'est de l'émotion. C'est pas parce que c'est des chiffres et des équations et que ça nous a fait peur quand on était au collège, au lycée ou même avant, qu'il faut s'imaginer que la science, c'est froid. C'est pas du tout le cas. Vraiment, je pense que, d'ailleurs, même dans des équations, la façon dont on crée des équations, on crée des théories, ou on crée un boîtier électronique, des choses comme ça, il y a une vraie part de joie et de créativité. En fait, l'équation d'Einstein n'aurait pas été la même si c'était pas Einstein. Parce que c'est propre à soi, quoi. Voilà, grande, c'est grande, et ça a la tonalité de grande, parce que c'est Olivier et moi. Et cette émotion-là, je pense qu'elle elle est réelle. La science, c'est des gens.
Donc là, on est posé au pied d'une des quatre antennes du site. On a mis l'antenne, on l'a branchée à l'électronique. Et donc maintenant, on va devoir retourner dans le conteneur, vérifier qu'on arrive bien à se connecter à distance au boîtier électronique, comme on le faisait tout à l'heure dans la salle avec les ping et les SSH. Et puis si tout va bien, Marion va pouvoir démarrer une acquisition et on va avoir nos premières données réelles sur terrain de validation de cet algorithme, quoi. Donc si tout se passe bien, dans une demi-heure c'est terminé, mais je pense que dans deux heures on sera encore là. Donc là, on est dans le sas du conteneur et je soulève la trappe du conteneur et dessous il y a toute une série de câbles cachés. Et voilà, je voudrais voir exactement ce qu'il y a. Ça, je sais même. Ah non, ça c'est les fibres. Ok, on va pas pouvoir faire ça. Alors, tu l'essayes là, Marion. Il marche pas le plugin.
Non.
Ouais, alors tu sais pourquoi?
Parce que c'est en anglais.
Ouais, le clavier il est en français.
Mais du coup, ok.
Donc il faut taper de mémoire.
QWERTY.
Ouais, donc là t'as
A. Ah oui, d'accord, c'est juste
ouais,
là.
Ouais, voilà.
Grand.
Ouais, t'es en train de donner le mot de passe secret à la radio. L'ensemble des auditeurs de France Culture peuvent se connecter à la radio. Allez, vas-y, Marion.
Threshold 1, 300. Threshold 2, 200. 10 périodes, 500 nanosecondes. Le nombre de crossings entre 1 et 100. Et voilà.
Donc là, c'est un peu ridicule parce qu'on a un clavier pour deux ordinateurs. Du coup, c'est un petit peu, c'est ça la recherche française aussi. Hein. Voilà la science où on en est, quoi. On cherche le arrobas sur un clavier. Moi, je sais pas faire le at.
Arrobas ?
Bah oui, mais il veut pas.
C'est bon, non ?
Non, je sais pas où il est. La réalité du travail de physicien, en particulier du physicien expérimentateur, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire brancher la prise USB dans le bon sens, trouver le clavier qui va bien, des choses aussi prosaïques que ça, quoi. C'est souvent ça, mais, enfin, je dirais, j'allais dire malheureusement, mais en fait non, parce que moi je j'aime bien ces défis un peu concrets. Cet objectif-là, grandiose on va dire, en l'occurrence, nous ce qu'on essaie de faire, c'est... De trouver l'origine des particules les plus énergétiques de l'univers, ça passe par ces trucs hyper triviaux. Et je fais, dans ma tête, il y a souvent un parallèle avec la montagne. Je fais pas mal de randonnées en montagne. Et en fait, quand on est dedans, la réalité de la chose qu'on traverse, c'est des trucs beaucoup plus concrets, quoi. C'est les ampoules, c'est froid aux mains, c'est la corde qui s'en mêle et ces choses-là. Et j'aime bien cette idée-là qu'en fait, se dire que la réalité du but, le moment où on arrive au sommet, c'est une toute petite fraction de la réalité du boulot. Donc je dirais en fait, ce truc de trouver le clavier, ok, c'est hyper trivial et on pourrait avoir l'impression que ça nous détourne de l'objectif réel. Mais en fait, pour moi, ça fait partie du chemin, quoi.
Le neutrino n'interagit pas avec rien. S'il traverse assez de matière, il va finir un moment par se faire éclater la figure. Alors, en particulier, un neutrino de ultra haute énergie qui traverse 30 km de roche va finir un moment par avoir une forte chance d'interagir avec la roche. Et c'est ce qui se passe dans la technique de détection de Gand. Donc, on a un neutrino qui arrive d'une source, qui arrive dans la Terre, qui traverse, disons, une portion de montagne, 30 km de roche, et là-dedans, donc, il interagit et il va créer une particule secondaire, qui n'est plus un neutrino. Cette particule va sortir de la roche avec son temps de vie limité. À un moment, il se casse en morceaux. Ces morceaux, qui sont d'autres particules, vont collisionner avec les molécules de l'atmosphère et créer comme ça toute une gerbe de particules secondaires, tertiaires, etc., qui arrose en fait toute une portion de l'atmosphère. Donc ça fait ce qu'on appelle une gerbe atmosphérique. Et à l'intérieur de cette gerbe, on a des particules chargées positivement, des positrons en particulier, et aussi des particules chargées négativement, en particulier des électrons. Et donc, il se trouve que la Terre est magnétisée, un champ magnétique. Donc, les particules chargées plus et moins vont partir dans deux sens opposés. Ça va créer un courant électrique. Et ce courant électrique qui est en mouvement, ça crée, par les lois de la physique, ce qu'on appelle un champ électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière. Et il se trouve que cette lumière, elle est dans la gamme radio. C'est de la lumière radio.
Et radio, là on est en train de faire de la radio.
On est en train de faire de la radio, donc là on l'entend en son, mais oui, voilà, la radio c'est de la lumière. La radio c'est de la lumière. Et donc on est dans des fréquences très basses, de la gamme du spectre électromagnétique, de toute la lumière. Et en plantant des antennes radio, on va pouvoir détecter les tout petits signaux émis, comme ça, par ces gerbes atmosphériques qui émettent en radio.
En fait, ce qu'on va capter avec ces antennes, c'est la mort de ces particules.
Oui, c'est...
On la fin du voyage de ces particules.
C'est ça, c'est la fin du voyage de ces neutrinos qui ont traversé des centaines de mégaparsecs qui viennent de... Voilà.
Qui ont traversé des centaines de mégaparsecs. Qui viennent de loin. Et parce que le mot loin n'est pas assez loin, le parsec, contraction de parallaxe seconde est l'une des plus grandes unités de mesure au monde. Ok, reprenons. D'abord, il y a le kilomètre. Et pour le dépasser, dans le chemin vers les étoiles, les astronomes ont inventé l'unité astronomique. Une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, calculée en 2012 à approximativement 150 millions de kilomètres. Accrochez-vous, parce que c'est là que ça se complique. Étant donné que les distances augmentent de manière exponentielle, on va commencer à parler en rapport temps-espace pour aller plus loin. Voilà alors cette vertigineuse année-lumière. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Dans une année-lumière, il y a 60 000 unités astronomiques, 60 000 fois la distance Terre-Soleil, 9 000 milliards de kilomètres. Ça y est, le même vertige qui nous fait nous sentir insignifiants, ou alors cette même joie d'être si improbable, si inespéré dans tout ça. Le parsec, donc. Le parsec équivaut à un peu plus de 3 années-lumière.
Des centaines de mégaparsecs.
Méga. Méga, c'est 1 million. Des centaines de mégaparsecs, mettons 500 mégaparsecs, nous donne alors plus d'un milliard 500 millions d'années-lumière. Un neutrino, donc, débris d'une explosion, parti il y a plus d'un milliard 500 millions d'années, avant que les continents de la Terre ne se séparent, avant que le taux d'oxygène sur cette dernière ne soit assez important pour que la vie s'y développe. À l'heure où la Terre ressemblait davantage à Mars qu'à la sphère bleue que l'on connaît aujourd'hui. Un voyage au-delà de notre conscience, à la vitesse de la lumière, d'un objet de 1000 milliardièmes de la taille d'un grain de sable. Si je suivais la trace qu'il a laissée dans sa chute vers la Terre, je croiserais d'abord le Soleil, puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, à 20 UA, unités astronomiques, 3 milliards de kilomètres. Je continuerai ma route jusqu'au dehors du système solaire, à 100 UA, 15 milliards de kilomètres. Je m'approcherai du bord de l'héliosphère, l'atmosphère solaire, à 122 UA, 18 milliards 300 millions de kilomètres. Alors, j'entrerai dans l'espace interstellaire. Plus loin, je croiserai Voyageur 1, à 167 UA, 25 milliards de kilomètres. Je voyagerai pendant 4 ans à la vitesse de la lumière pour rejoindre Proxima du Centaure à 240 000 UA, un peu plus d'un parsec. Plus loin encore, j'engloberai de mon regard la Voie lactée, grande de 100 000 années-lumière, 30 000 parsecs. Toujours plus loin, à 800 000 parsecs, j'entrerai dans la galaxie voisine, Andromède, pour me rendre compte des milliers d'années-lumière plus tard que je vivais dans le groupe local, un groupe de 80 galaxies, dont la nôtre, un espace de 3 millions de parsecs. Je me rendrai compte alors que notre groupe local lui-même repose au sein du super amas de la Vierge, un grand ensemble de 100 groupes en renfermant eux-mêmes des dizaines de galaxies, une plus grande boîte de 33 millions de parsecs. 1 fois 10 puissance 24 km, 1 million de milliards de milliards de kilomètres, 1000 trilliards de kilomètres, 1 fois 10 puissance 21 Paris-Marseille. Si je suivais sa trace, je m'arrêterai là, en apprenant que depuis la Terre, on observe 10 millions de super-amas comme celui de la Vierge.
Moi, la question que je me pose, c'est quand on est physicien, est-ce qu'on aborde les événements de la vie, la mort, les émotions, la réalité ? Est-ce qu'on l'aborde de manière différente au quotidien ou est-ce qu'on oublie ? Est-ce qu'on oublie en permanence et de manière continue ce qu'on sait et qu'on dissocie le quotidien, très trivial, et ses connaissances sur les particules ?
On dissocie la plupart du temps nos connaissances de scientifiques du quotidien qu'on vit.
Sauf de temps en temps, quand on voit par exemple un arc-en-ciel et qu'on est là en train de dire de la diffusion de mie. Et c'est chouette de trouver dans du quotidien des phénomènes physiques assez marquants qu'on a vu écrites sous forme d'équations, mais globalement, non. Enfin, je pense qu'on est des êtres humains avant tout, quand on vit, avant d'être des scientifiques. Donc, ouais.
Moi, pour le coup, j'ai une réponse assez différente. Je pense que c'est assez récent, ça fait quelques années, où je pense que finalement, un peu ce que tu disais, la démarche scientifique et rationnelle m'a forcé à interroger une éducation que j'ai pu recevoir, alors qui n'était pas ultra religieuse, mais où mes parents croyaient en Dieu. Et en fait, la déconstruction de ce truc-là m'amène aujourd'hui à la conclusion de me dire... En tant que scientifique, c'est pas que je crois pas en Dieu, c'est que je n'arrive pas à comprendre que des gens croient en Dieu. C'est-à-dire pour moi, la question de l'existence de Dieu est même, enfin, c'est de l'ordre de enfin, c'est évidemment une construction humaine. C'est pas possible que des gens croient que Dieu existe. Pour moi, j'en suis arrivé là. Et je sais que ça, c'est simplement nourri sur une analyse hyper rationnelle, ultra rationnelle, en me dégageant, en essayant d'identifier les éléments culturels de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que les gens qui croient en Dieu sont des idiots, mais c'est qu'ils sont baignés et ancrés dans toute une éducation ou un contexte culturel qui fait que pour eux, c'est impossible de remettre cette réalité-là en question. Donc ce truc-là, ou même l'idée d'une vie après la mort, comme on disait tout à l'heure, on sait qu'on a une constitution de molécules agrégées, et c'est la vie qui maintient cet agrégat en forme. Quand on va mourir, tout ça va se dissoudre. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait quelque chose qui subsiste de cet agrégat qui s'est dissous ? Alors, évidemment, j'ai pas la science infuse et je sais pas ce qui va se passer, mais ça me paraît compliqué d'imaginer qu'on devient autre chose que des molécules qui se séparent à nouveau. Donc, dans ce sens-là, ouais, là, oui, pour le coup, moi, de mon côté, mon expérience de physicien a nourri un peu ma réflexion au-delà du cadre strict de mon travail, quoi. Et puis, je sais pas, peut-être que je vais avoir une révélation religieuse dans 6 mois et je dirais complètement autre chose.
Ouais, mais quand tu bois ton café, tu te dis pas « voici un... »
Non, mais c'est vrai que ça peut m'arriver à du penser, j'en sais rien. Ouais, je vois de la buée sur une vitre, un phénomène aussi bête que ça, la condensation, la réflexion sur une vitre, ou le fait, je sais pas, d'être debout sur Terre, de se dire on tient debout et on flotte pas en l'air, se dire qu'il y a cette énorme masse. La force de gravitation, c'est un truc quand même assez fantastique, quoi. C'est incroyable, se dire un truc qui est à peu près négligeable dans toutes les interactions élémentaires entre particules. Quasi systématiquement, on néglige la gravitation, alors qu'au final, c'est la force structurante de tout l'univers. C'est elle qui va dominer absolument tout et qui, au final, gagne toujours, quoi. Toutes les étoiles finissent détruites par la gravitation, alors que c'est, encore une fois, l'interaction la plus faible de toutes. C'est marrant, ces questions-là, là, on peut se dire, ça, c'est des trucs qui peuvent interroger.
Bah, vous me rassurez, parce que c'est l'épisode 3, la gravitation. On se remet sur le chemin, j'ai l'impression qu'il y a plus de moucherons et
de
moustiques.
C'est le soir. Le crépuscule.
Et moi, je suis à moitié pragmatique. Il y a la partie, ma partie scientifique qui l'est, et puis j'ai l'autre partie qui est tarée, mais je le vis très bien, quoi.
Mieux que les autres, en tout cas.
Mais ceci dit, c'est vrai, et c'était pas forcément facile, je pense, d'accepter que j'ai deux parties qui résonnent un peu différemment.
Un paradoxe, quoi.
Je sais pas si c'est un paradoxe, mais pendant très longtemps, en fait, j'ai caché le fait que j'écrivais à toute la communauté, enfin en tout cas mes collègues. N'importe qui dans la science, parce que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas compatible avec le fait d'être une scientifique, en fait, d'écrire des semi-délires fictionnels voilà, sur des découvertes possibles. Non, ouais, mais au final, on accepte que c'est effectivement deux parties du cerveau qui coexistent et qui peut-être se répondent. Et voilà. En tout cas, ça marche bien, je trouve.
Où va-t-on ? Il y a le chat d'Alice au Pays des Merveilles, qui dit « On ne manquera pas d'arriver quelque part si on marche assez longtemps. » Voilà, c'est un peu ce qu'on fait en recherche. On a des grandes questions qu'on a envie de résoudre. Qui sont des grandes questions de l'humanité, je pense. Comment on en est là? D'où vient l'univers? Comment il évolue? Est-ce qu'il va se terminer un jour? De quoi on est fait? Toutes ces questions. Et puis au jour le jour, on marche. Et on résout chacune des petites questions qui se présentent à nous. À la fois en gardant quelque part dans la tête ces grandes questions de l'humanité et surtout en regardant chacun des pas qu'on fait et en se réjouissant de chaque pas qu'on fait. Donc où va-t-on ? Je sais pas moi où on va. Il faut aller quelque part. Voilà.
C'était Au-delà de l'atome, l'infini voyage d'une particule, de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, avec Kumiko Kotera, Olivier Martineau et Marion Guelfand. Musique originale, Tony Ayer. Mixage, Éric Boisset. Chargé de programmation, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Merci à Jean-Mathias Griesmeyer.